Monde aujourd'hui. À Washington.
Raïssa Girondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel, Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Au Mali, plus d'une vingtaine de civils tués dans l'explosion d'une mine à Boni.
À 8 km de Boni, la mine a explosé. Il y avait un survivant qui est arrivé au dispensaire seulement, il a perdu la bouche. Les 26 passagers, le chauffeur, l'apprenti, tout le monde est mort.
Un habitant de Boni dans le centre du Mali. Au Sénégal, avancé dans l'enquête sur le massacre en Casamance, le cerveau de ces meurtres est en détention. Au Tchad, la police a quadrillé N'Djamena pour empêcher la manifestation contre la vie chère et l'austérité. En Suisse, le président américain Donald Trump est au forum Davos, mais son slogan « L'Amérique d'abord » ne fait pas l'unanimité. Dans la Minute Éco, le dollar plonge. Et bien sûr, ne ratez pas les sports, mais tout d'abord, le journal. À la une de l'actualité, le Mali, un véhicule de forains a sauté sur une mine faisant au moins 26 morts dans le centre du pays. Le véhicule venait du Burkina Faso pour le marché hebdomadaire qui se tient aujourd'hui à Boni. Pour un témoignage, Modibo Dembélé a joint sur place Amboura Tamboura, un habitant de Boni.
Le véhicule qui quittait Burkina pour se rendre au marché de Boni, à 8 km de Boni, la mine a explosé. Il y avait un survivant qui est arrivé au dispensaire seulement, il a perdu la bouche. Les 26 passagers, tout, le chauffeur, l'apprenti, tout le monde est mort.
On aura appris qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de faire le décompte des biens appartenant aux personnes décédées.
On vient d'appeler le CV, il vient de rentrer. Il va rentrer à la mairie pour voir avec le maire et les conseillers, d'autres conseillers pour compter le nombre de l'argent. Parce qu'il disait 1 800 000 et poussière là-bas. Ils sont là à les compter. Quoi.
Et est-ce que vous avez une idée par rapport à l'identité des personnes qui sont décédées?
Il y a les gens de Wurofassi, 8 personnes, et les gens de Nisanata, 6 personnes. Tamasek, 10, le chauffeur et l'apprenti.
Par ailleurs, l'armée malienne a annoncé avoir tué 5 assaillants et perdu 2 militaires en repoussant 2 attaques de djihadistes présumées dans le centre du pays. Selon une source militaire, une des positions a été attaquée à Ngomakoura au mortier. Il n'y a pas eu de victimes. Au Sénégal, l'homme soupçonné d'avoir planifié le massacre de 14 jeunes en Casamance et 15 autres ayant participé à la tuerie font partie des 24 suspects arrêtés. Un procureur a fait le point sur l'enquête. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
D'après Alioune Abdoulaye Sila, procureur des Iguinchor, l'attaque a été planifiée et exécutée par une personne pour le compte de 2 villages. Il a ajouté qu'elle a été menée sous les ordres d'un lieutenant d'une faction rebelle. Monsieur Sila n'a toutefois pas donné de détails sur le village ou la faction rebelle concernée. Il a souligné qu'une partie des armes et munitions serait venue des bases d'un cantonnement rebelle. Il a aussi confirmé que celui qui a planifié l'opération a été placé en garde à vue avec 15 autres personnes qui ont pris part à la tuerie. Le colonel Issa Diak de la gendarmerie a conclu à une implication directe des suspects en détention. 14 jeunes qui cherchaient du bois dans la forêt de Bayotte ont été tués le 6 janvier. Depuis, 16 personnes, dont un journaliste, ont été inculpées pour assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes. 8 autres ont été interpellés le week-end dernier.
Au Tchad, malgré l'interdiction formelle des autorités en charge de la sécurité publique, une partie de la société civile a maintenu son appel à manifester. Une manifestation pacifique pour protester contre les mesures d'austérité, la hausse du prix de carburant et l'augmentation du taux d'inscription des étudiants tchadiens et bien d'autres mesures. Mais elle a été réprimandée par la police. André Komadjingar nous fait le point de N'Djamena.
Les espaces publics, les terrains de sport et tous les carrefours de la capitale sont occupés tôt le matin par les éléments de la police, de la gendarmerie et ceux de la garde nomade, y compris les chiens policiers pour contenir un éventuel débordement. Ceux qui ont tenté de faire face aux forces de l'ordre ont été bastonnés. D'autres sont arrêtés puis libérés à la mi-journée. C'est le cas du président du collectif tchadien contre la vie chère, Dingamnael Nili Versinis, qui a été arrêté et bastonné dans la voiture en route vers le commissariat puis enfermé quelques heures avant d'être libéré. 4 autres militants de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains seraient également entre les mains de la police. Le collectif des jeunes cadres indiens du MPS parti au pouvoir soutient cette action. Le porte-parole du dit collectif, Frank Nakingar, donne les raisons.
Les denrées alimentaires sur le marché augmentent pendant qu'on diminue le salaire, c'est ce qu'on ne comprend pas. L'essence, le pétrole, on le produit maintenant. Pourquoi on l'augmente? Pour une fois, il faut quand même qu'on laisse le peuple s'exprimer pour voir le degré de mobilisation des gens.
Guillaume Huché, directeur des publications du journal Aluida, un journal en ligne qui a tenté de couvrir cette manifestation, a été pris à partie par les policiers. Les établissements scolaires sont restés fermés et l'Internet est coupé à minuit et rétabli ce jeudi à la mi-journée. André Kodmadingar Ndiamena, VO Afrique.
Kinshasa a fermé l'agence de coopération belge et la maison Schengen, qui représente 17 pays de l'Union européenne. Cette mesure est un épisode de plus dans le bras de fer qui oppose la République démocratique du Congo à la Belgique. Après la répression de la manifestation du 31 décembre dernier, Bruxelles avait annoncé une révision de sa coopération avec les autorités congolaises jusqu'à l'organisation d'élections crédibles. Et toujours en République démocratique du Congo, un prêtre catholique, l'abbé Robert Massinda et une autre personne enlevée dans l'est du pays ont été relâchés par des ravisseurs non identifiés, selon l'évêque du diocèse de Boutembo-Béni dans la province du Nord Kivu. Au Cameroun, un gendarme a été tué aujourd'hui dans une attaque attribuée à des séparatistes présumés dans le nord-ouest du pays, l'une des deux régions anglophones. La victime est un adjudant-chef déployé dans cette région dans le cadre des opérations de sécurisation des zones anglophones. Pour rappel, ces derniers mois, les rangs des sécessionnistes se sont étoffés, faisant craindre l'émergence d'une insurrection armée dans la région. Au Gabon, la justice saisit pour torture présumée sur un ex-député du PDG, Bertrand Zibi Abégué, détenu depuis plus d'un an et arrêté en marge des violences post-électorales d'août 2016. Bertrand Zibi Abégué aurait été torturé par des agents des services pénitentiaires qui l'ont flagellé à l'aide de câbles électriques, selon un avocat qui a voulu garder l'anonymat. Les États-Unis ont appelé aux Nations Unies à l'imposition d'un embargo international sur les armes au Soudan du Sud, où un énième cessez-le-feu a volé en éclats le mois dernier. L'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Nikki Haley, a déclaré devant le Conseil de sécurité que le gouvernement du président Salva Kiir prouve de plus en plus qu'il est un partenaire inapte à mener des efforts de paix. Enfin, au Nigeria, vaste campagne de vaccination contre la fièvre jaune qui a déjà fait 45 morts depuis septembre dernier. La vaccination a commencé et permis jusqu'ici de vacciner 3 millions de personnes. L'objectif de cette campagne, appuyée par l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, vise à éliminer la fièvre jaune du Nigeria d'ici à 2026.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump est arrivé au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Il est le premier président américain en exercice à se rendre à ce sommet depuis Bill Clinton en 2000. Les précisions avec Dilly Dico.
Plusieurs délégations à Davos anticipent des désaccords si Donald Trump choisit de mettre en avant l'Amérique d'abord dans son discours à la clôture du forum demain, vendredi. Borj Brende, président du forum, dit croire fermement au dialogue et pense que le fait que le président des États-Unis soit présent est un signe d'ouverture à une discussion sur une mondialisation plus équitable. Le président Donald Trump a récemment mis en place des taxes sur plusieurs produits d'importation et demandé la restructuration de certains accords de commerce. Mardi, il a signé un décret imposant de lourdes taxes sur l'importation des machines à laver et des panneaux solaires en précisant que les États-Unis n'allaient plus se laisser faire. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a fait plonger le dollar à la suite de sa déclaration à Davos qui défend un dollar faible. Washington veut rendre les exportations américaines plus attractives et réduire le déficit commercial.
L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, a critiqué Mahmoud Abbas aujourd'hui en estimant devant le Conseil de sécurité que le dirigeant palestinien n'avait pas le courage pour parvenir à un accord de paix. Cette déclaration intervient après que le président Donald Trump a accusé les Palestiniens d'avoir manqué de respect aux États-Unis depuis le Forum économique mondial de Davos en Suisse. Pas d'alliance stratégique Washington-Moscou dans la Syrie en guerre, selon Paul Ryan, président républicain de la Chambre des représentants. Il a ajouté qu'il y aura peut-être, au cas par cas, des convergences tactiques. En Syrie, pour rappel, la Russie est l'alliée au régime du président Bachar al-Assad, appuyé par l'Iran et le Hezbollah libanais. Washington a de son côté soutenu des groupes rebelles opposés au président Assad, en plus de son appui à une force kurdo-arabe syrienne engagée dans la lutte contre le groupe État islamique. Par ailleurs, les pourparlers de paix sur la Syrie ont repris aujourd'hui à Vienne pour 2 jours sous l'égide de l'ONU dans un contexte de regain de violence sur le terrain. Les précédents tours de négociation s'étaient soldés par un échec, les deux parties refusant de se parler directement sur fond de divergence, notamment sur le sort du président Bachar al-Assad. Un porte-avions américain devait accoster au Vietnam en mars. C'est une annonce faite aujourd'hui à l'occasion d'une visite historique à Hanoï du président américain de la Défense, Jim Mattis, deuxième étape d'une tournée en Asie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco, qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire a mobilisé près de 7 milliards de dollars de recettes fiscales et douanières en 2017. Abidjan a enregistré un excédent de 304 milliards de francs CFA par rapport à 2016. Cette année, l'objectif global est de réunir plus de 7 milliards de dollars. Ces recettes permettront de financer en partie le budget qui s'élève à plus de 12 milliards de dollars. Le pays a aussi prévu de lever plus de 2 milliards de dollars sur les marchés financiers régionaux de l'UEMOA et international cette année. Stratégie de croissance et de transformation à Madagascar à l'horizon 2030, baptisée Finzatrata 2030, émergence et renaissance, qui fixe comme priorité l'éducation, la formation professionnelle, la santé et la nutrition. Ce plan ambitionne de créer 5 millions d'emplois et multiplier le produit intérieur brut par 3,5. Les marchés financiers ont été pris de court ce mercredi. Le secrétaire américain du Trésor, Steven Mnuchin, a fait plonger le dollar à la suite de sa déclaration à Davos qui défend un dollar faible. Dans la foulée, le billet vert a perdu 1% et l'euro a grimpé au plus haut depuis plus de 3 ans. Washington vise à rendre les exportations américaines plus attractives et réduire le déficit commercial. Cette démarche tranche avec la traditionnelle doctrine américaine.
L'heure de notre page sport. Bonsoir Nicolas Pino.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
Tout d'abord, aucun match aujourd'hui au Maroc, journée de repos au CHAN 2018.
Et oui, on attend les quarts de finale, ils commencent ce week-end dans le royaume chérifien. A noter samedi, le pays organisateur, le Maroc, qui a terminé premier du groupe A face à la Namibie, deuxième du groupe B. Ce match aura lieu au stade Mohamed V à Casablanca. Toujours samedi, la Zambie, qui a terminé première du groupe B, affrontera le Soudan à Marrakech. Enfin dimanche, le Nigeria face à l'Angola, ce sera à Tanger. Et puis le Congo-Brazzaville, qui a terminé premier du groupe D, qui affrontera la Libye. Ce sera toujours dimanche à Agadir.
Tennis Open d'Australie, le premier finaliste connu chez les hommes.
Mary Cilic a bien négocié son duel face à Kyle Edmund en demi-finale de cet Open d'Australie. Le score 6-2, 7-6, 6-2. Le Croate va jouer sa troisième finale en Grand Chelem et chercher un deuxième titre après l'US Open en 2014. Il affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale demain entre Roger Federer et le jeune prodige sud-coréen Chung.
Et enfin, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Houston n'a pas fait de détail face à son grand rival texan, Dallas, surclassé 104 à 97. Boston a renoué avec la victoire après 4 défaites de suite. Les Celtics qui s'imposent sur le parquet des Clippers de Los Angeles, 113 à 102. À l'ouest toujours, le duel entre les frères Gasol a tourné en faveur de Pau et de San Antonio. Les Spurs, sans LaMarcus Aldridge, laissés au repos, ont dominé Memphis, 108 à 85. Utah s'est imposé à Détroit, 98 à 95. Enfin, l'équipe en forme du moment, Philadelphie a submergé Chicago, 115 à 100.
Et c'est la fin de cette page sport. Merci beaucoup, Nicolas Puyol.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Les Nations Unies menacent le gouvernement malien et les groupes armés dans le nord de sanctions pour le non-respect des accords signés en 2015. Le Conseil de sécurité a donné jusqu'à la fin mars 2018 aux deux parties pour faire des avancées dans l'application de l'accord de paix. Blanche Sanou a recueilli la réaction de Amaï Mahaman Maïga, vice-président des Jeunes Patriotes de Gao.
Le gouvernement malien n'est pas seulement à être accusé de cette histoire. Parce qu'il n'y a pas un pays au monde qui peut vivre une rébellion en même temps le djihadisme et chercher à combattre, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, ces deux fronts. C'est difficile pour un gouvernement, ça, qu'on soit très clair là-dessus. Aujourd'hui, ce que l'ONU est en train de demander, qui est de menacer le gouvernement ou bien les groupes armés, c'est très bien, mais ce n'est pas le gouvernement qu'il faut réellement menacer, mais plutôt les groupes armés, les détenteurs de ces armes-là sur le territoire. Parce que ce n'est pas le gouvernement malien qui est en train de violer sur le terrain, ce n'est pas le gouvernement malien qui est en train de déposer et déposséder les gens de leurs biens, ce n'est pas le gouvernement malien qui est en train de tirer à tort à travers des gens, mais certaines de ces actions-là ont été faites sous les yeux de ceux qui sont venus nous aider. Donc c'est pour vous dire que réellement aujourd'hui, c'est bien qu'ils soient des hommes, parce qu'eux-mêmes, ils en ont perdu beaucoup d'hommes dans leur mission de la paix, que l'ONU n'a jamais connue, si ce n'est pas au Mali. Donc nous sommes vraiment fiers qu'ils comprennent que leur faiblesse, là, de rester dedans, il faut changer de fusil de poing, il ne serait pas bon d'être tout le temps faible.
Pensez-vous que les élections présidentielles puissent avoir lieu en juillet prochain?
Aujourd'hui, tous les Maliens, ils doivent le savoir que depuis la première fois où on a eu à faire les élections après 2012 pour élire Ibrahim Boubacar Keïta, qui est notre président aujourd'hui, que les élections n'étaient pas possibles au Mali. Parce que de un, quand tu prends le territoire à partir d'une large majorité de la région de Tombouctou, de Kidal, de Gao, quand tu prends même le cercle, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas une armée nationale pour garantir ces élections, il n'y en a pas. C'était des élections, on peut dire en toute sincérité, en toute honnêteté, qui devraient être une élection où il faut mettre toutes les composantes de la société civile dans cette histoire de gestion du pays pour pouvoir préparer un référendum après le référendum passé aux élections présidentielles. En toute vérité, on n'a même pas une constitution qui va nous garantir cela. Cette constitution qu'on a de 91 est vraiment obsolète. Donc vraiment, moi, personnellement, ce que je souhaiterais quand même, en tant qu'activiste, je vais le dire, les hommes politiques maliens, ils n'ont qu'à être corrects, ils n'ont qu'à être honnêtes et dire la vérité au peuple malien. Le peuple malien doit savoir qu'il ne peut pas avoir des élections crédibles parce que l'armée nationale n'est pas partout, ça c'est de un. De deux aussi, comment est-ce qu'on appelle, l'autorité de l'État ne se trouve pas partout, les commandants de cercle et autres, là, ils sont dans des régions proches de leur zone, ils ne peuvent pas avoir d'élections crédibles, il y a les djihadistes un peu partout, il y a la rébellion un peu partout. Il faut que les gens se mettent ensemble pour quand même combattre une seule chose. On ne peut pas combattre les rébellions et les djihadistes en même temps organiser une élection, c'est faux, ce n'est pas possible.
C'était Amaï Mahaman Maïga, vice-président des Jeunes Patriotes de Gao.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, les échanges et les échéances électorales de 2018, parmi lesquelles l'élection présidentielle, mobilisent déjà l'ensemble des acteurs politiques du pays. Les inscriptions sur les listes électorales s'intensifient, les alliances entre les formations politiques de l'opposition du Cameroun voient le jour. Pour sa part, l'organe en charge d'organiser les scrutins a mis sur pied de nouvelles stratégies pour la distribution des cartes d'électeurs. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Le parti au pouvoir a d'ores et déjà envoyé ses responsables locaux sur le terrain, avec pour mission veiller à l'inscription des militants sur les listes électorales, ainsi qu'au retrait de leurs cartes d'électeur. En 2018, de nombreux élus locaux, sénateurs, députés, conseillers municipaux et un président de la République devront sortir des urnes en vue de l'élection présidentielle. Akeromouna a été fait candidat d'une plateforme de l'opposition le 15 janvier dernier. Un choix qu'analyse Sam Séverin Ango, porte-parole du candidat Akeromouna.
Pour ce qui a été déclenché le 15 janvier dernier est tout simplement le commencement d'une ère nouvelle. 2018, c'est le tournant pratiquement. Il faut aller conquérir ces suffrages-là. Vous avez les trois quarts du pays qui ne se sont pas intéressés au vote.
Mercredi dernier, le secrétaire général du Social Democratic Front a annoncé à la presse que le comité exécutif national du SDF s'y tiendra le 9 février prochain. Bien avant cela, une alliance entre le SDF et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dirigée par Maurice Kamto, pourrait se nouer. Confirmation avec Sosten Médard Lipot, conseiller du président du mouvement pour la renaissance, MRC.
Les rencontres ont commencé depuis plusieurs jours et vont se poursuivre d'ailleurs avec des leaders de la société civile, la société politique, des personnalités indépendantes aussi, pourquoi pas, et qui sont marquantes et qui peuvent contribuer à l'évolution des choses, et notamment dans le sens d'une véritable alternance politique au Cameroun.
La mobilisation actuelle pour les scrutins de 2011 concerne aussi les formations de la majorité présidentielle. C'est le cas de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. Léonide Mvoum, membre du secrétariat national à la communication de l'UNDP.
Nous observons et nous lisons l'actualité telle qu'elle se déroule et nous sommes en capacité de pouvoir réagir. Il y a des actions qui ont été prises pour préparer les élections, notamment le renouvellement des organes de base de notre parti.
Seul bémol de cette mobilisation, les Camerounais électeurs 6 millions et demi seulement sont inscrits sur les listes électorales et un certain nombre n'a pas encore retiré les cartes d'électeurs, obligeant Election Cameroun, l'organe en charge d'organiser les 10 scrutins, à entreprendre depuis la semaine dernière le porte-à-porte, l'envoi des SMS aux propriétaires des cartes non retirées. Yaoundé, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Forum économique mondial se tient à Davos en Suisse. Les défenseurs du libre-échange rivalisent avec le protectionnisme américain cher au président Donald Trump qui est sur place. Pour savoir la genèse et les enjeux de Davos, Eric Manirakiza a joint à Paris l'économiste Sylvie Matelli de l'Institut des Relations internationales et stratégiques.
Ce forum, en fait, est quelque chose de beaucoup plus large que Davos. C'est le Forum économique mondial et Davos est la réunion annuelle. Et participent à ce forum tous les acteurs économiques qui le souhaitent, en termes clairs, les entreprises qui sont prêtes à payer la cotisation.
Pourquoi le choix de Davos?
Tout simplement parce que le Forum économique mondial a été créé en Suisse et par conséquent que son créateur, M. Schwab, a choisi très logiquement une ville relativement attractive, pour le coup en Suisse, une station de sport d'hiver dans les Alpes, pour organiser son forum et faire venir et attirer autant d'entreprises et de représentants de la presse, des intellectuels, mais aussi des politiques dans un lieu relativement paradisiaque, en plein mois de janvier. C'est une station d'ailleurs toujours aujourd'hui de sport d'hiver assez huppée. Donc il y avait également des hôtels, il y avait des structures hôtelières qui pouvaient accueillir toutes ces entreprises et toutes ces personnes qui voulaient participer à Davos.
Comment détermine-t-on les pays qui participent à ce forum?
En fait, le forum de Davos, ou le forum économique mondial, a été mis en place au début des années 70, dans une période des années 70 où les pays capitalistes, on est en pleine guerre froide, hein, donc les pays capitalistes entrent dans une période de crise et de doute, et ce forum visait à discuter de l'avenir du capitalisme, discuter de l'avenir de ce système libéral, essayer de trouver des solutions aux différents problèmes. Donc on est vraiment dans un forum de discussion, et c'est à ce titre qu'au-delà des entreprises qui participent financièrement, on invite un certain nombre de dirigeants politiques, voire aussi des stars diverses et variées, parce que, et des représentants des ONG, du monde universitaire, parce que tout ce monde a besoin de se retrouver, de se rencontrer pour essayer de discuter des grands défis qui se posent au système économique, voire aujourd'hui aux relations internationales dans le monde.
Justement, quels sont les enjeux ?
Alors, on ne prend pas de décision à Davos. On est vraiment là pour discuter, pour échanger les idées qui sont en vogue, les idées qui se développent, les initiatives qui peuvent être prises.
Y a-t-il un intérêt particulier pour les Africains ?
C'est déjà une bonne question qui est très compliquée. Davos n'est pas un forum où on décide en particulier d'investir ou d'aller soutenir un pays en développement. C'est un forum où on échange et où on négocie. Et on négocie entre gens puissants, entre gens riches, donc forcément entre chefs d'entreprise, et parmi les plus grandes multinationales de la planète, l'Afrique est assez peu représentée. Alors il y a souvent des déclarations d'intention. Ce n'est pas Davos qui va permettre à l'Afrique de se développer durablement.
Sylvie Matelli, économiste à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques à Paris.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, des anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Joselle Dorsil à la mise en onde, de Mister Zomiak à la console, Raissa Girondin à la présentation. On reste connectés sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le groupe État islamique a perdu la grande majorité du territoire qu'il contrôlait en Syrie, de même qu'il a été défait en Irak. Mais alors que la Russie pourrait considérer que la guerre en Syrie est terminée, le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires proche-orientales par intérim, David Satterfield, a récemment déclaré devant le Congrès que les États-Unis demeurent déterminés à défaire de manière totale et durable le groupe État islamique et d'autres groupes terroristes en Syrie et dans la région, et à veiller à ce qu'ils ne puissent pas se reconstituer et revenir. Une chose que cette défaite durable exige est un processus politique crédible, mais non un gouvernement choisi par le peuple syrien sans Bachar al-Assad. Ils ont infligé des souffrances et d'innombrables morts au peuple syrien. Ce régime attire la terreur, a déclaré M. Satterfield. Tout en reconnaissant les graves défis à venir, il a déclaré qu'avec le processus de Genève, dirigé par les Nations Unies pour une réforme électorale constitutionnelle crédible, ainsi qu'une transition politique en Syrie, est un objectif potentiellement réalisable. Les progrès vers cet objectif dépendent en partie de la Russie alliée de Bachar al-Assad. Nous aurons besoin que la Russie fasse pression sur le régime pour qu'il se conforme à la résolution 2254 du Conseil de sécurité et participe aux discussions politiques à Genève. Pourquoi la Russie devrait-elle le faire ? S'est demandé Satterfield avant de répondre. Parce que, sans un tel engagement, il n'y aura pas d'argent en Syrie pour la reconstruction. Il n'y aura aucune légitimation de la part de la communauté internationale, que ce soit pour la Russie ou pour la Syrie. Le processus politique sous la résolution 2254 est la clé, a déclaré M. Satterfield. C'est la clé pour s'adresser à Assad concernant son départ a fait la clé pour résoudre la question des forces étrangères et de l'influence iranienne. Et nos outils pour faire avancer ce processus comprennent le déni de la légitimité et d'authenticité à toute revendication de victoire du régime syrien ou de ses partisans à Moscou ou au Téhéran, et la rétention des fonds de reconstruction vitaux pour le régime et les intérêts de Moscou sur le long terme. Les États-Unis, a déclaré le secrétaire d'État adjoint par intérim Stubblefield, sont déterminés à rester en Syrie pour atteindre tous nos objectifs stratégiques, y compris la défaite durable du groupe État islamique, les progrès sur la transition politique syrienne et la diminution de l'influence néfaste de l'Iran. L'évaluation de ces objectifs, a-t-il déclaré, ne sera pas basée sur des calendriers, mais sur l'évaluation des conditions examinées de manière progressive.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Bienvenue à bord.